VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Villon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Cheikh Ahmed Al-Tayeb, le grand imam de l'institution de l'islam sunnite Al-Azhar, qui siège au Caire en Égypte, a condamné aujourd'hui les attaques contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Ces attaques ayant fait au moins 49 morts selon le dernier bilan. Ces attaques terroristes contre des lieux de prière doivent nous inciter à ne pas être tolérants avec les courants et les groupes racistes qui commettent ce genre d'actions abjectes, a dit le cheikh d'Al-Azhar dans un communiqué. 49 personnes ont été tuées pendant la prière du vendredi dans des attaques contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch, selon les autorités, un tireur étant identifié comme un extrémiste de droite australien. Le Sénat américain a voté hier jeudi en faveur d'une résolution pour annuler la procédure d'urgence nationale décrétée par le président Donald Trump, procédure pour débloquer des fonds nécessaires à la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Compte rendu, Jacques Aristide.
Il s'agit d'un sérieux revers pour le chef de la Maison-Blanche, des élus républicains s'étant joints aux démocrates pour approuver le texte. Donald Trump a promis de poser son veto. Le président a déclenché l'arme de l'urgence nationale il y a un mois après le refus du Congrès de lui octroyer les 5,7 milliards de dollars de budget qu'il réclamait pour construire son mur à la frontière mexicaine. Par cette procédure, le président américain s'est arrogé des prérogatives budgétaires normalement réservé au Congrès. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a tenté en vain de raisonner ses troupes jusqu'au bout. Le président opère dans le cadre de la loi et la crise à notre frontière est bien trop réelle, a-t-il déclaré dans l'hémicycle. Le sénateur et ex-candidat à la présidentielle en 2012, Mitt Romney, a notamment décidé de voter avec les démocrates en faveur de la Constitution, dit-il. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a approuvé cette même résolution le mois dernier.
Pyongyang envisage de suspendre ses discussions sur le nucléaire avec Washington après l'échec du deuxième sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï fin février, selon la vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréenne, citée aujourd'hui par l'agence Reuters. Nous n'avons aucune intention de céder aux demandes des États-Unis d'aucune manière et ne sommes pas non plus disposés à nous engager dans des négociations de ce type, a déclaré Choi Son-yu, selon l'agence russe. Kim Jong-un fera bientôt une déclaration officielle sur ses intentions, a ajouté la responsable des journalistes et des diplomates étrangers à Pyongyang. Cet avertissement de la Corée du Nord intervient alors que des signes d'activité ont été détectés sur un site nord-coréen de lancement de fusées qui ont suscité des spéculations sur l'imminence d'un test de missiles ou de fusées de la part de la Corée du Nord. Plus de 370 000 personnes sont mortes depuis le début de la guerre en Syrie, qui entre aujourd'hui dans sa 9e année, selon un bilan dévoilé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Parmi elles, on compte 112 623 civils, dont plus de 21 000 enfants et 13 000 femmes, selon cette ONG, déclenchée avec la répression sanglante par le régime de manifestations pro-démocratiques pacifiques. Le conflit en Syrie s'est transformé au fil des années en guerre complexe impliquant groupes rebelles, mouvements djihadistes et puissances étrangères sur un territoire de plus en plus morcelé.
Nos infos sur voaafrique.com.
Sur le continent, le processus d'enquête sur les causes du crash du Boeing 737 MAX 8 en Éthiopie qui a fait 157 morts a débuté à Paris en France où les boîtes noires sont arrivées. Jeudi, pour analyse, a indiqué aujourd'hui la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. L'enquête devrait durer plus longtemps que prévu en raison des dommages subis par les boîtes noires de l'appareil. La ville mozambicaine de Beira, dans le centre du pays, était coupée du monde ce vendredi après le passage de la nuit du cyclone tropical Idai qui y a provoqué d'importants dégâts. Depuis le début du mois, le système dépressionnaire qui est associé au cyclone Idai a noyé le Mozambique sous des pluies diluviennes qui ont déjà fait, selon les autorités locales, au moins 66 morts, plus de 17 000 déplacés et plus de 140 000 sinistrés dans le centre et le nord du Mozambique. C'est aujourd'hui que se termine à Nairobi, au Kenya, la 4e assemblée de l'ONU pour l'environnement qui a réuni plus de 4 700 officiels, dont des chefs d'État. Ces derniers se sont engagés à œuvrer, à trouver des solutions aux défis environnementaux du continent. La précision de John Lydon.
Les pays africains doivent lutter contre le changement climatique avec un nouveau modèle économique basé sur les énergies propres, la protection des forêts et la technologie pour aider les agriculteurs. Mais ils auront besoin de plus d'investissements et de recherches pour y parvenir, ont déclaré jeudi des dirigeants présents à ce rendez-vous. L'Afrique ne peut pas répéter les erreurs passé des pays industrialisés qui s'enrichissent à l'aide de l'énergie produite à partir de combustibles fossiles polluants tels que le pétrole et le charbon, a souligné le président français. L'exemple du Kenya qui tire déjà les trois quarts de son énergie de sources renouvelables, notamment solaires, géothermiques et éoliennes, a été évoqué. Lors de ce sommet, le troisième du genre, le président Uhuru Kenyatta a promis que son pays veillerait à ce que les forêts couvrent au moins 10% des terres d'ici 2022. Le continent ne produit que 1,5% de son électricité à partir de l'énergie solaire, contre 7% en Allemagne. La Banque mondiale prévoit de dépenser au moins 12 milliards de dollars en Afrique entre 2021 et 2025 pour soutenir des projets d'adaptation et de résilience, ont déclaré ses responsables.
Au Congo-Brazzaville, le programme alimentaire mondial appuie le retour des populations dans le pool à travers des activités de relance agro-pastorale. La directrice régionale du PAM, Lola Castro, qui s'est rendue dans ces régions affectées par l'insécurité alimentaire, encourage les communautés à beaucoup produire. À Brazzaville, retrouvons notre correspondant Arsène Séverin.
Le PAM est l'une des agences de l'ONU qui accompagne actuellement les populations du pool à se relever après le conflit armé. La réhabilitation de la piste agricole Missé-Missé-Munkuto soulage déjà les populations qui évacuent leurs produits agricoles vers les centres de consommation. À Mindouli, le PAM mobilise les jeunes à relancer les activités piscicoles. L'espoir renaît ici après de longs mois d'incertitude.
Nous on a dit merci, ok, nous allons travailler avec le PAM plus l'APDRA. On va curer tous les étangs, reformer les digues et la nouvelle méthode, il faut faire des pêcheries. Ça c'est un étang de production, on doit avoir 7000 à 8000 poissons. Nous les vendons seulement ici là.
Maintenant là vraiment, depuis que le vieux maman a entendu qu'on nous aide maintenant là, donc ils sont contents.
Nous avons la volonté de travailler parce que sans le travail, tu ne peux pas gagner quelque chose. Parce qu'il y a la morale que le chef nous a proposé que non, on va vous donner des bottes, des imperméables. Là, on a reçu des pelles, des bottes.
La directrice régionale du PAM, Lola Castro, qui a visité ces projets de réhabilitation du pool, se dit satisfaite.
Pour moi, comme directrice régionale du PAM, c'est très intéressant de venir à Pool et être dans ces régions. On a travaillé avec les communautés locales pour voir que les gens ils peuvent revenir avoir de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire, c'est pour les gens de commencer à vraiment produire encore une fois et achever des produits qui vont aller au marché et développer la région.
Dans la Bouenza, le département voisin, le PAM soutient les cantines scolaires dont l'impact sur les études des élèves n'est plus à démontrer. Michel Kombo, directeur d'une école primaire à Madingo.
Depuis qu'ils ont la cantine, les enfants ne fuient plus les cours. Donc même ceux qui sont malades forcent quand même de venir. Nous avons souvent constaté dans les sacs des enfants, ils oublient même l'ardoise, mais l'assiette est là.
Annick Goma, directrice d'école à Madingou Gare.
Ça augmente le taux de fréquentation. Il y a moins d'abandon à l'école. Pourquoi ? Parce que je constate souvent quand les enfants sont malades ici, on demande aux enfants de repartir à la maison, ils refusent. Ils attendent que la nutrition. Vraiment, je félicite le projet PAM.
Le PAM veut aider les populations à beaucoup produire pour assurer la sécurité alimentaire dans plusieurs régions du pays. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Et de nouvelles manifestations contre le pouvoir sont attendues aujourd'hui, jour hebdomadaire de contestation en Algérie, le premier depuis que le président a reporté l'élection présidentielle, prolongeant sine die son mandat au-delà de son terme prévu le 28 avril. Âgé de 82 ans, affaibli par les séquelles d'un AVC qui l'empêche de s'adresser aux Algériens depuis 2013 et rendre ses apparitions publiques rares, M. Bouteflika est la cible d'une contestation massive jamais vue depuis son élection à la tête de l'État il y a 20 ans. Devant des policiers passifs. Quelques centaines de personnes se sont déjà rassemblées en milieu de matinée sur le parvis de la Grande Poste, bâtiment emblématique du cœur d'Alger, brandissant des drapeaux algériens vert et blanc, frappés de l'étoile et du croissant rouge, et reprenant à plein poumon des chants contre le pouvoir et son chef. Et puis, sport pour terminer, sport football donc, le conseil de la FIFA se réunit aujourd'hui à Miami, ici même aux États-Unis. La trentaine de membres du conseil vont se prononcer sur les conclusions de l'étude de faisabilité selon laquelle un mondial à 48 au Qatar en 2022 est possible si un ou des pays voisins accueillent certains matchs. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque. Bon week-end à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.